Bonjour à toutes et à tous. Je suis Thibaut Brunet, aujourd'hui accompagné de Marceau Truffaut, et vous écoutez un nouvel épisode de Sans Titre. Sans Titre est né de l'envie de partager la vie réelle des créateurs et des créatrices. Pour cela, Marceau et moi rencontrons des artistes et leur demandons simplement de raconter ce métier, avec ses réalités et ses défis, loin du romantisme que l'on peut s'en faire. Notre objectif ici est de vous donner une meilleure compréhension de la vie d'artiste, de ce qui se cache derrière une œuvre d'art, mettre en avant la condition des créateurs et des créatrices d'aujourd'hui. Sans Titre est disponible en podcast sur Spotify et toutes les bonnes plateformes. Bonne écoute.
Nous recevons Sonia Voss. Sonia, bonjour.
Bonjour.
Alors, si tu veux bien, je vais commencer par te présenter rapidement et puis je te laisserai le soin de compléter ce que je vais bafouiller. Donc, tu es auteur et commissaire d'exposition indépendante. Tu as exercé dans la production et le financement cinématographique. Tu participes également à la direction de différentes publications. Est-ce que
oui, c'est assez
ça
complet.
Correspond à ce que tu fais ?
En effet, j'ai un background dans le cinéma et il y a une dizaine d'années, j'ai bifurqué vers le commissariat avec un focus sur la photographie que je poursuis depuis.
D'accord.
Et les activités concomitantes, auteur, direction de publication sont en fait liées généralement au projet de commissariat que
d'accord.
Je développe.
Okay.
D'ailleurs, tu veux qu'on t'appelle auteur ou autrice ? Du coup, quand j'ai vu la bio qu'avait fait Marceau, je me suis posé la question. Je dis, ah, ben, du coup, faut dire.
Non, je n'ai aucune susceptibilité
d'accord,
liée à cette question.
Alors, pour me décharger complètement, c'est ce qu'on trouve aussi sur ton site. Je me suis dit, bon, bah, a priori.
D'accord. Désolé, les gars.
Ça devrait être correct.
est-ce que tu peux, dans un premier temps, peut-être revenir sur tes études, sur ta formation ? Et dans un deuxième temps, nous raconter si cette formation a une importance dans ton travail aujourd'hui, ou si c'est complètement décorrélé.
Oui, bien volontiers. Alors c'est vrai que j'ai peut-être un profil un peu atypique. Enfin, je pense qu'on est nombreux commissaires indépendants à venir d'horizons divers. Donc moi, en effet, j'ai fait des études de cinéma. Après quelques années en lettres, me suis dirigée vers le montage cinématographique. Et donc j'ai étudié dans une école à Bruxelles qui s'appelle l'INSAS, où j'ai fait mes 3 années d'école, à la suite de quoi je me suis finalement orientée vers la production, en travaillant d'abord comme stagiaire, puis dans différentes maisons. J'ai monté ma production de ma maison de production de films de court-métrage et moyen-métrage. J'ai travaillé pour un fonds d'investissement dédié aux films d'auteur, films indépendants. Et puis finalement, à un moment donné, j'ai trouvé que le lien avec l'œuvre elle-même se perdait un petit peu dans toute la recherche de financement de plus en plus complexe, s'agissant de films d'auteur. C'est là où j'ai eu un petit moment de flottement avant de trouver une nouvelle voie. Évidemment, la photographie m'avait toujours accompagnée. J'étais passionnée, mais je n'avais pas envisagé d'en faire mon métier. Voilà, donc ma formation a peu à voir finalement avec mon activité présente, mais ce que je peux dire, c'est que monter un film, c'est quand même s'emparer d'une matière qui n'a pas encore trouvé sa forme, c'est essayer de comprendre ce que le réalisateur veut faire, veut raconter, c'est s'asseoir pendant des heures et des journées, des semaines avec lui pour trouver la meilleure façon de réaliser son projet de départ et de le communiquer. Donc c'est là où je trouve que finalement il y a quand même une proximité assez intéressante entre les deux métiers. Mmh. Ce que j'ai fait en production évidemment ne me dessert pas puisque l'argent est toujours le nerf de la guerre. Même si ça se compte pas en moins en millions qu'en milliers parfois, et ça c'est aussi un des aspects que je trouve assez reposant finalement. Mais voilà. Dialogue avec l'artiste ou réalisateur, recherche commune d'une forme et art de la transmission.
Mmh. Ok. Et tu peux nous raconter comment tu as commencé ? Enfin, c'est quoi tes premiers pas en tant que commissaire d'expo ? Entre la décision peut-être et le début des expositions, comment tu as fait ça ?
Alors, comme vous allez voir, le hasard, je pense que c'est souvent le cas, joue un grand rôle, hein, enfin la chance, le hasard et les rencontres. J'ai déménagé à Berlin il y a une dizaine d'années justement parce que j'avais arrêté le cinéma et que je cherchais un petit peu à une nouvelle voie. J'avais d'abord envisagé de travailler dans des festivals de films. Et puis, je me suis rendu compte que Paris était une ville difficile pour se réinventer. Peut-être que moi, j'étais très identifiée dans ce que je faisais, que moi-même, j'avais du mal à m'imaginer ailleurs. J'ai fait ce pas de côté en supposant, en espérant que ça puisse ouvrir une nouvelle perspective. Et c'est vrai que ça a été le cas. J'ai été quand même très aidée à ce moment-là par le mécanisme d'aide aux intermittents qui m'a permis de prendre du temps pendant quelques mois, sans pression. Berlin est une ville où il y a assez peu de pression. Voilà, on a moins besoin de paraître toujours, être sur un projet formidable et de le vendre à chaque vernissage. Donc ça c'est très reposant aussi. Et j'ai fait la rencontre fortuite d'une femme formidable qui dirige une fondation à Berlin qui s'appelle la Fondation Alfred Erhardt, qui est dédiée à l'œuvre d'un photographe des années 30 notamment, 30 et plus tard. Grâce à elle, j'ai rencontré... elle préparait à ce moment-là une exposition sur l'animal dans la photographie. Elle m'avait dit, si tu as des idées... Et j'ai commencé, puisque j'avais le temps, à beaucoup faire des recherches comme ça, sans objectif précis. Et je suis tombée sur l'œuvre de George Shiras, un Américain de la fin du 19e siècle, qui a été le premier à faire des photographies de nuit des animaux sauvages dans les forêts américaines, avant même l'invention du flash, etc. Donc cette rencontre a été assez déterminante. Elle reste un petit peu ma mentor à Berlin. C'est une femme, c'est tout le contraire de mon parcours. Elle est extrêmement carrée, parcours académique. Et j'ai rencontré par elle, finalement, bizarrement, à Berlin, Xavier Barral, à qui j'ai montré ces photographies de Shiras et qui a tout de suite accepté qu'on travaille ensemble sur ce projet alors que je n'avais rien fait du tout dans ce domaine. Xavier m'a ouvert les portes finalement de sa maison d'édition et je peux dire que, et puis ensuite le musée de la chasse et de la nature également, donc j'ai eu beaucoup de chance en fait de rencontrer des gens très ouverts et contrairement à ce qu'on dit souvent du monde parisien où il faut être très connecté, etc. Je dois dire que moi j'ai eu plutôt une expérience contraire.
Ok. Donc tes premiers pas c'était comme ça et très vite du coup t'as pu faire la transition. Attends, on va attendre que la classe passe. On commence, tu sais, quand la classe arrive. Putain. Donc très vite t'as pu arrêter avec l'intermittence et commencer comme ça.
Oui, j'ai eu la chance cette exposition toute petite dont personne n'attendait rien a vraiment bien marché. Les gens étaient très émus. Par le travail de Shiras, le livre était sold out, etc. Donc c'est vraiment la chance du débutant et j'ai vite compris qu'il fallait que je renchaîne très très vite avec cet endroit que j'aimais beaucoup, le musée de la chasse et de la nature. C'était un endroit assez exotique pour moi à l'époque parce que tout le monde se voit, tout le monde est exquis l'un avec l'autre. C'est le contraire de cette espèce de foire d'empoigne qui est le cinéma. Et donc c'est là que j'ai eu l'idée de proposer à Sophie Kahl de travailler sur le thème de la chasse. Voilà, donc j'aurais proposé ça, évidemment. Ils ont vu que c'était une proposition qui attirerait le monde. Et puis, ils suivaient le travail ils avaient envie, je crois, de faire quelque chose avec Sophie depuis longtemps sans que ce soit jamais concrétisé. Ça s'est enchaîné comme ça.
Toi, tu la connais comment, Sophie Kahl? Tu la contactes exprès? Ça, du coup, on va sur comment travailles-tu?
Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Comment on décide, comment ce projet-là, il apparaît et comment tu passes les premières étapes?
Alors, Sophie Kahl, je connaissais son travail comme beaucoup de monde le connaît. Voilà, je n'étais pas du tout une spécialiste, hein. Je ne suis toujours pas d'ailleurs. J'ai eu cette intuition. En fait, très concrètement, j'ai pris l'annuaire. Je crois que j'ai réussi à me procurer son adresse postale et je lui ai envoyé une invitation pour le vernissage de Shiras, donc c'était juste à ce moment-là. Et puis, le jour du vernissage, elle s'est pointée devant moi en me disant « Je suis Sophie Kahl, êtes-vous Sonia Voss ?» Et voilà, et ça a démarré comme ça. Donc, encore une fois, on se fait un monde de l'accessibilité des gens.
Finalement, hyper naturellement, une rencontre physique et une première discussion qui s'engage. Alors, C'est quoi après cette première rencontre, comment tu dis bah tiens on va bosser ensemble et j'aimerais bien qu'on réfléchisse à une expo, à mettre ton travail au musée de la chasse et...
Bah, ce lieu a un pouvoir d'attraction assez ouais. fort, donc évidemment, bon, en plus, le directeur de l'époque, le Dantenaise, avait fait un travail assez remarquable, donc il y avait déjà une identité très art contemporain qui était associée au musée. Voilà, donc c'est vrai qu'on a, on a passé du temps dans les salles, beaucoup de temps. On a parlé des collections avec les conservateurs du musée, qui ont une connaissance vraiment très très fine et très voilà, profonde de ce qu'ils ont. Et puis, au début, elle avait un petit peu peur de ne pas pouvoir remplir seule le musée. Donc, elle a fait appel à, elle a proposé à sa meilleure amie, Serena Caron, de la rejoindre pour un duo show sous le signe de l'amitié. Et voilà, ça s'est assez rapidement accepté. Et ça s'est construit comme ça. Et c'est vrai que, alors, ce qui est intéressant, c'est que souvent, les lieux, je trouve, déterminent beaucoup les projets. Enfin, en tout cas, moi, dans les expériences que j'ai eues, les lieux ont souvent été importants.
Et comment, donc là tu nous racontes comment les deux sujets sont arrivés, mais là par exemple maintenant depuis que tu as fait cette exposition avec Sophie Kahl, moi je t'ai déjà vu parce qu'on a déjà travaillé ensemble, mais je t'ai vu bosser sur des sujets. Comment ça apparaît?
Alors il y a beaucoup de encore une fois je sais pas si le hasard c'est le bon terme, hein, puisqu'évidemment le hasard se prépare, faut être là pour l'accueillir, etc. Mais alors Berlin, quand j'y suis arrivée, j'ai assez vite découvert, enfin, j'ai un problème avec le mot découvrir, parce qu'évidemment tout est déjà là, mais enfin disons que j'ai découvert pour moi, comme disent les Allemands, toute l'histoire de la photographie est-allemande. Et je me suis rendu compte assez rapidement que c'était un corpus très vaste, très passionnant, très méconnu, en dehors des frontières ex-est-allemandes, puisque même en Allemagne de l'Ouest, on en sait pas grand-chose, ça a un petit peu changé depuis. Et ça, ça m'a vraiment passionnée. Je me suis donné comme mission, un peu à ce moment-là, de faire connaître ça en France. Donc ça a été un sujet sur lequel j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps en bibliothèque. J'avais pas d'a priori, je ne savais pas qui étaient ceux qui étaient plus importants que les autres, donc j'ai vraiment... tout regarder, tout ce qui existait. J'ai fait des tableaux Excel avec des centaines de noms. Voilà, donc le temps aide hein, parfois à faire les choses, ou en tout cas à trouver son chemin dans la masse du matériau disponible. Et puis voilà, donc ça, ça a donné lieu en fin de compte à une exposition à Arles en 2019. J'avais l'impression de jamais être prête, hein, assez prête de savoir assez de choses. Et puis à un moment donné, je me suis dit, bon, il faut y aller. 2019, 30 ans de la chute du mur. En France, on adore les anniversaires. Voilà. Donc j'ai proposé ça à la bourse de la bourse curatoriale qui venait d'être lancée. Et voilà. Et donc là, j'ai pu travailler avec vraiment un objectif très concret. Et je crois qu'en effet, ça a ouvert une porte. En tout cas, les gens ont un peu.
En tant que commissaire, avoir été à Arles, ça change quelque chose?
Ça change tout. C'est un endroit que les gens... enfin, alors d'abord, je dois dire que l'équipe des rencontres d'Arles est une équipe d'un très haut niveau professionnel. Hein, donc, on apprend beaucoup de choses en termes de... quels sont les usages en termes d'exigences à l'époque. Donc c'était encore Sam Sturzé qui était directeur et qui avait à la fois une vision très globale de son programme et qui était très attentif aux détails. Donc ça, c'est de la même façon que Xavier Barral, de le voir travailler, de voir comme il travaille, ça inspire beaucoup. Donc ça, c'est en termes d'exigences par rapport à soi-même, ça apporte beaucoup. Et puis c'est vrai que c'est une plateforme de visibilité incroyable. Tout le monde y va, le grand public comme les professionnels du monde entier, et puis ça renforce beaucoup la crédibilité, ça je dois dire, et la visibilité auprès des artistes comme des décideurs, enfin directeurs d'institutions.
C'est un adoubement à un moment. Quoi.
Oui,
ça
oui,
permet, ça vraiment permet une mise en lumière après de ton nom et de la façon que tu as peut-être de fabriquer des expositions.
Tout à fait. Et puis, c'est aussi un grand plaisir quand même après des temps de travail assez longs et souvent assez mal rémunérés, mais ça, je pense qu'on y viendra après, de voir le public affluer C'est, alors moi je viens du cinéma où en fait on est obsédé par, par les chiffres, par l'audience, même quand on fait des films d'arrêt d'essai et qu'on sait qu'on fera pas les mêmes entrées que le blockbuster, finalement chaque film a son économie et c'est très important de s'y insérer, d'être viable. Voilà, donc ça c'est quelque chose à quoi je suis assez attentive, ça peut paraître un peu cynique mais j'aime bien quand, quand du monde se présente à l'entrée d'une expo.
T'as des
questions? Non, vas-y.
Non, moi j'aimerais bien du coup, si on prend cet exemple-là, ce que tu viens de raconter. Donc quand t'es à Berlin, tu commences déjà finalement toi, en partant à la découverte d'un fond photographique, tu commences un peu de ton côté à fabriquer un petit baluchon d'idées, de mise en commun d'œuvres, etc. Et à ce moment-là précis, t'es pas mandaté. Enfin, c'est...
Oui, alors ça, c'est vraiment, ça participe du, de la précarité, hein, on peut le dire, du métier quand même. En effet, je suis obligée de parvenir déjà à un projet ou un pré-projet qui soit suffisamment mûr, mûri, pour pouvoir convaincre des gens dont je m'imagine à un moment donné qu'ils n'attendent que ça, que c'est leur lieu et le lieu parfait pour ce projet. Et bon, évidemment, parfois, les... Ces personnes ont d'autres idées ou d'autres projets, donc ça colle pas toujours, mais voilà, il faut arriver à les convaincre. Oui, mais c'est un temps assez solitaire, c'est un temps non rémunéré.
Oui, c'est un temps, c'est un temps prise de pari, quoi, prise de risque.
Tout à fait.
C'est, alors, tu suis toi une intuition intime et tu te dis non, ça vaut le coup, je vais bosser un projet. Et puis après arrive la question de si je veux le concrétiser, à qui je le propose et comment. Est-ce que tu peux me raconter cette période-là?
C'est vrai qu'assez... comment dire? D'abord, il faut dire que c'est quand même un temps indispensable. Hein, ça, je le répète, je crois vraiment au temps long de recherche. Et plus on avance quand même dans son chemin, dans son parcours professionnel, plus on est en mesure d'attirer l'attention des gens, d'obtenir un rendez-vous avant d'avoir le projet parfait, prêt à... Voilà. Et ça peut apporter des encouragements qui sont vraiment nécessaires parfois à des moments clés où on est vraiment très seul. Donc, je dois dire que les choses évoluent un petit peu. Là, pour un projet, je sais que par exemple, les rencontres d'Arles, après y avoir travaillé trois fois, maintenant, je peux les approcher sans craindre de me griller si mon projet n'est pas encore
suffisamment écrit ou un peu léger.
Ouais.
D'accord.
Mais le niveau d'exigence est quand même, voilà, tous ces gens ont peu de temps, il faut arriver à capter leur attention assez vite quand même, et donc c'est tout à fait, donc ça, il y a vraiment ce temps d'élaboration.
Mais du coup, je fais un petit saut de puce, faudra qu'on revienne bien là où on avait laissé, mais je vais direct sur l'argent, si ça ne te dérange pas. Mais bon, tu dis qu'on est sur... Bon, à chaque fois qu'on fait un enregistrement, on parle de précarité.
Oui.
Donc, voilà. Mais tu peux nous expliquer un petit peu, du coup, comment tu vis concrètement? Comment t'es payé? C'est quoi?
Alors, d'abord, je vis à Berlin. Et ça, c'est pas négligeable, parce que c'est vraiment une ville où il est beaucoup plus facile de vivre avec des moyens réduits que Paris. Ça change. Et ça change, pas dans le bon sens, mais quand même la marge est assez grande encore avec Paris. Donc ça, c'est une chose. Puis bon, après, je travaille de chez moi, voilà, concrètement, pour répondre. J'ai réfléchi souvent à cette question-là, de prendre un bureau, de me mettre, de partager des locaux pour être en contact, pour être moins solitaire dans mon travail. C'est pas une solution très raisonnable, donc je continue à me dire que si je suis suffisamment concentrée, je devrais être en mesure de continuer comme ça. Alors, avec le temps, on est de plus en plus contacté pour écrire des textes, et ça, étrangement, c'est plus intéressant si on rapporte le temps passé à la rémunération que le commissariat d'exposition. Les honoraires prévus pour les commissaires indépendants varient d'un lieu à l'autre et ne correspondent à rien, n'ont aucun lien avec le temps passé. C'est symbolique.
Ok, Arles, il paye combien pour une expo?
Alors Arles, je sais que à l'époque de Sam, alors moi c'était un peu différent parce que j'avais une bourse de recherche curatoriale. Donc il y avait un honoraire de 5000 euros qui était prévu pour le commissariat. À l'époque, c'était plutôt 1500 la norme par exposition pour un commissaire. Il faut savoir que les indépendants, vous le savez, payent leur charge, etc. Bon, bref. Christophe Wissner, je crois venant du privé, a dû être un peu embarrassé par ce point, donc a fait un effort.
Ouais.
Donc, je ne sais pas si tout le monde est au même. Pour ce qui me concerne, ça a été doublé, donc c'est très appréciable comme geste. Ça reste, malgré tout, suffisant.
Ouais, voilà. Ça reste pas suffisant, bien sûr.
Donc les textes, c'est aussi toujours un grand plaisir, les textes, parce que c'est quand même ce moment où on approfondit sa compréhension de l'œuvre d'un artiste, où on fait des recherches, parfois en allant piocher dans d'autres domaines. Moi, j'aime beaucoup quand même lire sur la peinture, ne pas rester trop collé sur le médium photographique. Ça aide. Et puis là, on va rejoindre, je crois, une chose que vous vouliez aborder. Depuis peu, je conseille également un collectionneur.
Ah, ouais. Ok, d'accord.
Alors,
en quoi ça consiste?
Alors, est-ce que tu peux nous raconter ça justement? Alors, du coup, on va sur une, on fait encore un autre saut de puce, mais c'est cool.
Mais ouais.
Est-ce que tu peux juste nous, enfin, alors c'est un usage. Il y a des commissaires d'expo qui accompagnent des collectionneurs dans leur collection. Est-ce que tu as le droit de nous dire déjà qu'est-ce que c'est, comme qui c'est ou qu'est-ce que c'est?
Oui, je dis volontiers son nom. Il s'appelle Nicolas Von Bülow. C'est un jeune homme, notre génération à peu près, qui travaille dans la finance, les nouvelles technologies, mais qui vient d'une famille d'intellectuels et qui finalement, je crois, avait très envie de renouer avec une réflexion, un contact avec l'art et avoir quelqu'un qui lui montre des choses avec lequel il peut parler. Donc j'ai l'impression que le désir de départ, c'était plus d'ouvrir son monde, ou de réouvrir son monde, plus que de posséder. Donc il m'a contacté, on a commencé à travailler à Paris Photo 2022, donc c'est récent, hein, ça va faire deux ans là en novembre. Et moi je trouve l'exercice extrêmement plaisant et intéressant. Alors on a commencé par regarder ce qu'il aimait, à se laisser un peu porter par ce qu'on appelle un peu bêtement les coups de cœur, j'aime pas beaucoup cette expression, mais voilà, les fulgurances qui pouvaient avoir lieu dans une galerie, sur un stand, etc., sans trop se mettre de cadre au départ. Et puis, assez rapidement, quand même, on a vu que se dessinait une certaine sensibilité. Donc on a défini des axes. Et puis maintenant, on est dans une démarche un peu plus proactive, où on va vraiment chercher des choses. Évidemment, comme je suis très orientée sur l'Allemagne de l'Est, mais aussi sur toute l'Europe de l'Est, par ricochet, on regarde beaucoup ce qui s'est passé en Tchécoslovaquie, en Hongrie, en Lituanie. Et on regarde quand même aussi beaucoup la photographie contemporaine, et notamment les photographes qui travaillent, finalement, qui réfléchissent, ce qu'on appelle le post-photographique, qui réfléchissent à leur médium, au passage de l'argentique au numérique. Bon, tout ça de façon un peu large, parce que l'idée, c'est aussi de continuer à se laisser surprendre, c'est très important.
Super. Est-ce qu'on a d'autres questions sur là-dessus?
Non, pas spécialement. Non. Donc, pour résumer, parce que moi, pour le coup, je suis vraiment novice. Enfin, si tu veux, ce que tu me racontes là, j'ai l'impression que ça peut se rapprocher d'un travail de curation. C'est le cas. Comment est-ce que tu... J'ai besoin un peu de comprendre. Est-ce que tu peux décrire le travail du commissariat d'expo par rapport à celui d'un curateur ou d'une curatrice? C'est quoi
Alors, c'est curateur, curatrice, c'est vraiment un anglicisme. D'ailleurs, c'est un mot qui ne veut pas du tout dire ce qu'on pense que ça désigne. Donc, j'essaye d'éviter ce mot, même si je me surprends moi-même souvent à le... Voilà. à l'utiliser malgré tout. Enfin, il y a quand même une fois où j'ai annoncé à un ami que je n'avais pas vu depuis très longtemps que j'étais devenue commissaire. Il a blémi et il m'a dit « Mais comment est-ce que tu t'es retrouvée à vouloir travailler dans la police ?»
C'est vrai.
Voilà, donc commissaire d'exposition, c'est un peu long, mais c'est le même métier.
D'accord, oui. Ouais.
Alors, c'est un métier qui désigne à la fois les indépendants que ceux qui travaillent au sein de structures. Enfin, en français, en tout cas, on dit conservateur plutôt, hein, pour les gens qui sont attachés à une institution. En anglais, il n'y a pas de distinction. On est curator de la collection photographique du MoMA, mais c'est le même métier.
Comment... Alors, j'ai perdu. J'aimerais bien qu'on parle des influences, des effets de mode. Est-ce que toi, tu... Moi, en tant qu'artiste, je le ressens beaucoup. Des fois, même dans l'orientation de mon travail, je vois que je peux aller dans une direction qui serait peut-être un peu trop soufflée par l'air du temps et parce que j'ai vu au dernier Paris Photo. Et je me demandais si tu pouvais avoir le même sentiment en tant que commissaire. Est-ce que tu l'embrassais ou est-ce qu'au contraire tu voulais lutter contre ? Enfin, comment tu gères si ça existe, ce genre de choses ?
Cette question de l'air du temps, je la trouve vraiment intéressante parce qu'en effet, travaillant notamment donc sur l'époque de la guerre froide où les choses ne circulaient pas beaucoup, je vois que quand même, il y a des choses très similaires qui ont émergé à différents points du monde. Et ça, je trouve que c'est naturel finalement. On ne devrait pas s'en vouloir d'être, de capter des choses. A fortiori dans notre époque où on est un peu bombardé de questionnements d'actualité, etc. Donc, alors c'est vrai que moi c'est peut-être un peu le privilège de l'âge. Hein. J'ai passé plus de 10 ans avant de commencer le commissariat, donc j'ai un peu plus de distance. Je suis assez peu touchée. Enfin, je vois bien qu'il y a des thèmes un peu obligés. Comme les questions écologiques, les questions de genre. Moi, je résiste beaucoup. Je me tiens à l'écart. Enfin, disons que comme c'est pas du tout présent dans les choses qui éveillent mon intérêt spontanément, je suis suffisamment occupée avec ces projets-là. Ouais.
Tu ne sens pas la nécessité d'à tout prix amener des réflexions ou des propos. Une expo vers ces thèmes-là.
Non, et puis je me répète, mais je crois beaucoup au temps long et les questions comme ça qui émergent, qui sont importantes, et c'est bien qu'il y ait des gens qui les embrassent, mais je crois qu'il y a aussi des choses qui nous traversent sur la durée et qui méritent qu'on ne les néglige pas. C'est vrai qu'on m'a déjà dit « Ah, ce projet formidable !» ça me plaît, mais alors c'est dommage que le photographe soit un homme. Bon, voilà, donc ça c'est le genre d'obstacle qu'on peut rencontrer de façon un peu agaçante parfois. C'est pas grave, hein. Je trouverai quelqu'un d'autre pour le montrer.
Est-ce qu'il est important pour toi d'avoir un point de vue extérieur sur le travail, sur quand tu élabores un projet ? Est-ce que t'as quelqu'un ou quelqu'une qui t'accompagne, justement, un regard?
Oui, c'est vrai que c'est important. On est, comme j'ai dit, vraiment très très seul dans ce métier. Il faut dire qu'on est un petit nombre de curatrices, commissaires d'exposition spécialisées photographie indépendantes, de ma génération, hein, et il y a celles qui sont allées vers autre chose, Fanny Skoulen qui est au ministère de la Culture, Audrey Warraud qui est à la direction du CRP, mais voilà, Luce Lebar, on se parle quand l'occasion se présente et on échange beaucoup sur les réalités très, très concrètes, hein, sur l'expérience qu'on a pu avoir avec tel lieu, etc. Donc ça, c'est précieux. Et c'est, alors c'est un métier très féminin, faut bien le dire, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, je ne sais pas si ça explique cette ouverture ou cette aptitude au partage, mais en tout cas, c'est très réconfortant et je la vis vraiment au quotidien. Après, mon compagnon relit tous mes textes, mon meilleur ami Patrick Chia, cinéaste, regarde souvent mes editings avant que je le présente à un lieu. Donc oui. Oui, du regard c'est en, extérieur.
C'est en pensant à eux, tu disais en début d'interview, quand on parlait justement de Berlin, début où tu es toute seule avant de présenter Arles, avant d'avoir ce temps-là, etc. Enfin, pour ce projet-là. Tu disais, oui, c'est important, il y a des moments de creux, il y a des moments de doute, et on cherche aussi les moments de se. Des façons de se rassurer, de se dire, ok, moi, passer la prochaine étape et ça va aller. C'est en pensant à.
Oui, oui,
à cette personne-là, ou il y a d'autres professionnels, on va dire, de la culture, du musée, de l'expo, qui entrent en jeu aussi.
Oui, on teste quand même, on va dire, régulièrement, enfin, je teste, je suppose que je ne suis pas la seule à le faire, régulièrement, les idées, en pitchant, hein, comme on dit, enfin, c'est un terme issu du cinéma, je ne sais pas si on l'utilise beaucoup dans le milieu de l'art, mais enfin, voilà, donc, pour voir l'appétence, les désirs que ça suscite, pour être sûr qu'on ne se fourvoie pas, et ça, c'est très important. Être sûr qu'on n'est pas,
pas perdu en route. Ouais.
si... Il y a eu un gros atchoum. Ah. La question, on peut parler du voyage, qu'est-ce que t'en penses?
Tout ce que tu vis et travailles entre Paris et Berlin.
Ouais. Alors...
est-ce que c'est important justement ce... J'ai l'impression, enfin parce que on parle toujours de précarité, on gagne pas beaucoup d'argent, tout ça, et en même temps, il y a comme une espèce d'injonction à être tout le temps en voyage et tout le temps quelque part. Et effectivement, là, tu viens de, t'étais où là?
Ouais, j'étais en Lituanie la semaine dernière.
En Lituanie. Hein. Ce dimanche, t'es.
Je rentre, je vais à Dresde, puis à Berlin, et je repars à Prague au mois d'octobre.
Voilà, donc il y a quand même vraiment un besoin de. J'ai l'impression que c'est pas, c'est dans ton métier a besoin. De voyager, non?
Oui, alors c'est un paradoxe parce qu'il y a, comme on l'a dit, assez peu d'argent souvent pour faire des expositions, mais il y a de l'argent parfois de façon étonnante ailleurs. Et par exemple, là, je suis partie en Lituanie parce que l'Institut culturel lituanien a mobilisé des fonds assez importants pour faire venir des professionnels de l'étranger pour se familiariser avec leur scène. Là, je vais à Prague, je suis invitée 6 jours par la FAMU, l'école d'art de Prague, pour parler pendant 50 minutes un soir. Donc il y a des poches comme ça qui ça compense un petit peu finalement le manque de moyens qu'on peut vivre par ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a des rencontres qui sont facilitées par cet argent que des gens très motivés arrivent à trouver.
Mmh. Et c'est important d'être nomade?
Alors moi, quand je suis partie à Berlin il y a 10 ans, assez rapidement, j'ai voulu venir souvent à Paris parce que bizarrement, c'est à Paris que j'ai, ou en France d'ailleurs, pas seulement à Paris, il y a Arles et puis il y a d'autres festivals formidables. C'est plus en France que j'ai envie de développer mes projets qu'à Berlin, qui est une ville avec une dynamique assez particulière, qui est pas chère, ce qui attire beaucoup d'artistes, avec beaucoup qui créent des lieux. Des galeries associatives avec les moyens du bord et voilà, il y a une sorte d'esthétique de la bricole qui est assez intégrée dans les usages, qui est très rafraîchissante quand on arrive de Paris et on est heureux que puisse y avoir encore des endroits comme ça, même si ça change encore une fois, mais bon, quand on a envie de faire les choses avec un peu d'exigence, surtout en photographie où finalement il n'y a peut-être pas autant de pays comme la France, où elle est valorisée d'un point de vue esthétique à ce point-là. Voilà. Donc, et puis, en fait, assez rapidement, enfin, surtout étant très nouvelle dans ce métier, j'ai senti que c'était différenciant pour moi d'être la commissaire d'exposition française qui vient de Berlin. C'est un peu c'est un peu ce que je vends, quoi. Donc, oui, ça m'aide d'être entre les deux villes.
D'accord, d'accord. Tu peux nous parler des freins et des contraintes que tu peux rencontrer dans des projets? C'est quoi, quels sont les principaux problèmes que tu peux rencontrer? Et comment ça se passe globalement? Est-ce que c'est toi qui choisis l'équipe avec qui tu travailles, ou est-ce que ça se modifie tout le temps? Concrètement, comment ça se passe?
La principale contrainte, je veux dire, enfin, on en a parlé, c'est vraiment le temps. Sans rémunération, on passe à travailler seul. Si j'étais curatrice dans commissaire dans une institution, je serais payée chaque mois pour faire mon boulot. Bon, en même temps, j'aurais plein d'autres choses ennuyeuses à faire que dont je suis épargnée. Et c'est pour ça que là où j'assume tout à fait mes choix, je n'ai jamais candidaté à des postes qui ont pu se libérer à CEO, à Berlin ou ailleurs. Voilà. Je sais que j'ai commencé tard et que je dois garder le temps que j'ai pour faire vraiment ce qui me semble important. Voilà. Voilà. Après, en contrainte, je vois quand même que l'argent est de plus en plus rare. Il y a peut-être des exceptions. Si je faisais quelque chose chez Luma, je serais peut-être moins limitée, mais dans beaucoup de lieux avec qui je travaille, tout est réduit. Alors, par exemple, ça impacte beaucoup la scénographie, par exemple. Ça, il faut réussir à... C'est peut-être mon principal défi, ma faiblesse peut-être. Il faut réussir à imaginer des scénographies qui ne soient pas chères, qui ne soient pas cheap, comme on dit, pour autant, qui soient issues de l'époque, enfin, qui soient modernes, contemporaines, qui prennent en compte... voilà, les enjeux écologiques notamment, tout en sachant que c'est souvent très enrichissant de travailler des scénographes extérieurs, mais qu'il n'y a pas forcément les moyens. Voilà.
D'accord, donc c'est toi qui fais tes scénographies.
Alors généralement, par exemple, aux rencontres d'Arles, Amanda en Tunis fait la scénographie de toutes les expositions, elle est vraiment formidable, et elle fait beaucoup, beaucoup d'expos toute seule, ou avec son bras droit. J'ai eu l'occasion, pour l'exposition Chairas, de travailler avec Cyril Delhomme, qui est le scénographe du bal. Vraiment un des meilleurs, je pense, dans le domaine. Donc, voilà, mais c'est aussi parce que c'est un ami. Donc, voilà, il m'a donné un coup de main volontiers, mais c'est pas là, malheureusement. Enfin, c'est, je pense, dommage qu'il n'y ait pas plus de moyens qui soient mis pour ce poste, hein, qui est essentiel, en fait, pour... parfois aussi pour communiquer un contenu pas évident au public.
Oui, c'est vrai.
C'est du travail du commissaire de constituer une équipe comme ça autour d'une expo.
Généralement, les lieux sont dotés, hein, ont leur équipe fixe.
D'accord.
Ouais.
C'est plus à toi de t'insérer dans un dispositif qui appartient au lieu, à l'institution, etc., dans lequel qui va accueillir une expo.
Voilà. Ça se passe très bien en général, ouais. Hein, les gens sont quand même très motivés pour la plupart dans ce domaine de l'art.
Est-ce que tu fais ton accrochage? Est-ce que tu fais toi-même les accrochages?
Bien sûr, hein, c'est essentiel. Enfin, d'abord, c'est le moment où ça devient enfin réel, donc c'est pas le meilleur moment, parce que la recherche c'est génial aussi, mais ça, c'est l'apogée. Enfin, c'est l'apogée avant qu'on lâche son travail pour le confier au public. Donc moi j'adore. Moi je suis très vieux jeu, donc j'ai besoin de voir pour comprendre ce que je veux faire. Donc évidemment je fais un peu mes simulations sur mon ordinateur, mais enfin ça va vraiment pas très loin. Généralement je fais des petites vignettes, j'imprime toutes mes images, je les mets, c'est vraiment très, très, très manuel, mais bon voilà, c'est comme ça que je travaille. Et je travaille souvent très étroitement avec l'artiste, hein, quand il est, voilà, c'est un artiste contemporain et qu'il est disponible pour ça. Il y a aussi ceux qui disent, alors vraiment, je te fais confiance, je lâche, j'aimerais que ce soit différent que d'habitude. Et ça, c'est aussi une responsabilité très excitante. Mais oui, ce que j'adore, en fait, dans l'accrochage, c'est que le moindre détail peut tout changer. Quand j'ai fait l'accrochage de l'exposition Corps impatients, donc sur la photographie est-allemande, je me souviens que Sam avait pas beaucoup de temps, mais il est passé une fois sur le lieu d'expo pendant que j'accrochais. Il est venu avec sa petite règle et on a discuté de l'écart à un centimètre près entre les cadres. Et là, je me suis dit, bon, voilà, c'est important. Et ça se confirme à chaque fois.
Un centimètre ou genre vraiment, il disait non, il faudrait que ce soit 5 centimètres plus loin ou un centimètre?
Non,
parce que si c'est que 1 cm, c'est un lourd. Tu vois?
Non, non.
Si c'est 5, ça va. Mais je sais pas.
Non, bon, je romantise un peu, mais c'est vrai que les détails sont importants parfois d'enlever une photo quand on en est 4 sur un mur au 5, et ben, tout d'un coup, ça change très fortement la perception. Et ça, on peut pas, enfin, moi, je ne peux pas l'anticiper devant mon écran.
Oui. Voilà.
C'est-à-dire, c'est un peu autour de la même question, comment tu décris un peu ton interaction justement entre l'artiste, peut-être les galeristes, l'équipe du musée, dans un cadre bien sûr où tu travailles avec un artiste ou une artiste contemporaine, mais...
Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé encore de la rencontre avec les artistes, les jeunes artistes. Et je peux partir d'un exemple assez concret, hein, puisque Thibaut est avec nous. Thibaut, j'ai vu son travail Typologie du virtuel. C'était à Paris Photo de quelle année ? C'était
2016, j'imagine. 2016,
hein, voilà, sur le stand de la galerie Binôme. Ça m'avait beaucoup plu. J'avais également, je ne sais pas si c'était la même année ou pas, repéré le travail d'Isabelle Lemine, hein, qui était montré par Christophe Gaillard, une autre typologie d'objectifs, d'appareils photo anciens. Et puis, j'ai gardé ça dans ma tête, mais à un moment donné, j'ai eu la possibilité de faire une exposition, j'avais une carte blanche dans une galerie à Berlin, la galerie Kerrer, et je me suis souvenu de ces deux œuvres qui... Peut-être que j'avais pas créé la résonance, peut-être que j'avais pas vu la résonance tout de suite, mais là, ça m'est apparu. Et voilà, et puis en fait, j'ai contacté et Thibaut et Isabelle, et puis ça, voilà, et puis c'est une relation qui, avec les deux, s'est poursuivie jusqu'aujourd'hui. Donc ça, c'est formidable.
Ouais. Isabelle, qu'on a interviewée dans son titre quand on a enregistré au Centre Wallonie-Bruxelles. Et d'ailleurs, comment un artiste doit te contacter ?
Alors, j'ai un site internet qui est assez facile à trouver. Je crois qu'il y a mon mail, c'est sûr, peut-être même mon téléphone. Et généralement, si je peux, je réponds quand on me demande de faire des visites d'atelier. Si je peux, j'y vais.
Pour quelle raison tu répondrais pas ou tu irais pas ?
Récemment, j'ai refusé des lectures de portfolio à Arles. Je faisais déjà les lectures de portfolio organisées par le festival et des artistes m'ont contacté que je connaissais pas du tout et qui ont certainement, j'avais le sentiment parfois qu'ils n'avaient pas vraiment regardé ce que je faisais. Voilà, j'étais un peu débordée parce que j'essaie aussi de voir des expositions quand je suis à Arles, donc je leur ai dit désolé, là, j'ai consacré deux demi-journées pour les lectures de portfolio, j'en ferai pas d'autres. Voilà, à un moment donné, on a aussi nos priorités, mais bon, les artistes berlinois qui me contactent, je vais toujours voir leur travail.
D'accord.
Parisien quand je vais à Paris.
Ok.
D'ailleurs, c'est dans quel sens le plus souvent ? C'est toi qui vas contacter des artistes justement en disant bah tiens, j'ai vu ce travail là, ça m'intéresse. Est-ce que et tu réfléchis à un propos quelconque et puis tu dis bon ben hop, mise en contact. Est-ce que c'est des institutions qui font appel à toi parce qu'ils ont un thème, ils ont une séquence et ils se disent ah bon bah vu le boulot que t'as déjà réalisé, peut-être qu'on ferait bien de se rapprocher d'elle. Ou est-ce que justement c'est plus aussi généralement comme vous venez de le dire des artistes qui vont vers toi. J'imagine que les trois cas de figure existent.
Oui. Alors c'est vrai que des artistes qui seraient venus que je connaîtrais de nulle part ailleurs, qui seraient venus vers moi, le cas c'est, enfin, qui auraient débouché sur un projet. Je crois que malheureusement, Cannes s'est pas présenté. Mm-hmm. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, mais bon, il y a des choses qui se font un petit peu de façon un peu moins claire. J'ai fait un travail avec un artiste roumain, enfin d'origine roumaine, installé à Berlin sur des églises déplacées de Bucarest. Église m'était déplacée sous Ceausescu. Voilà, on se croisait régulièrement. En fait, c'était mon prof de yoga. Puis un jour, j'ai compris qu'il faisait de la photo. Et on a commencé à parler. Et puis, j'ai commencé à lui donner des conseils sur ce que je pensais du projet qu'il avait en cours. Et du coup, il m'a dit, écoute, si tu veux, on le fait ensemble. Et puis, voilà, on allait à Bucarest ensemble. On a développé ça ensemble. Et ça a été d'ailleurs un des prix découverte, un des nominés du prix découverte à Arles en 2018. Donc là, voilà, c'est moins clair qu'il a l'œuf ou la poule. Ouais. Les institutions qui me contactent, ça arrive. Souvent, ce ne sont pas des institutions, au sens où des musées, généralement, ne contactent pas les indépendants. Ouais. Mais là, par exemple, j'ai une carte blanche pour la Biennale photographique de Mulhouse, automne 2024. Voilà, Ça arrive à un endroit qui s'appelle la Villa Haik à Berlin, où Thibaut, où j'ai montré Thibaut avec deux autres artistes. Ça a été aussi une invitation de la Villa d'organiser une rencontre entre plusieurs artistes berlinois et français. Voilà. Mais malheureusement, c'est vrai que les institutions muséales sont des forteresses.
Ouais.
Parce
que tu dis, elles n'appellent pas d'indépendants ou d'indépendantes, mais elles appellent.
Non,
elles
développent.
Elles font tout en interne, ouais, elles ont leurs propres équipes, c'est ça. Donc elles recrutent directement.
Tout à fait.
Est-ce que tu as une anecdote pour nous sur une exposition ? Tu peux nous parler d'un four, d'un échec, d'un regret, d'une embrouille ? Ou t'en as pas ?
Je réfléchissais tout à l'heure et c'est vrai que aux expositions, j'essaie de réviser un petit peu les expositions que j'avais faites récemment avant l'enregistrement. J'ai pas vraiment de mauvais souvenirs, hein, je dois dire. Mais parfois, il y a des malentendus qui sont assez amusants. Et comme je reviens juste de Lituanie, j'avais envie de raconter mon premier voyage en Lituanie où j'avais été contactée par l'Institut français. J'avais été très surprise. Je me suis retrouvée à Vilnius devant l'ambassadeur de France qui m'a annoncé qu'il voulait faire une exposition en France d'un photographe qui s'appelle Antanas Sutkus, qui est un peu le quartier bresson lituanien, comme il dirait là-bas. Une photographie très humaniste, très documentaire, qui avait peu à voir avec ce que j'avais fait. Je n'avais pas fait grand-chose, hein, faut le dire, mais auparavant. Et je me suis retrouvée donc, chez ce vieux photographe à 11h du matin, obligée de boire du cognac pour passer le test. Voilà. Et en fait, cet ambassadeur, qui était un type très passionné par l'histoire, s'imaginait, et que ce n'est pas grand-chose de la photographie, imaginait que je pourrais lui obtenir le Grand Palais pour faire une grosse rétrospective de ce photographe, somme toute, assez peu connu en France. Et voilà, donc évidemment, ça ne s'est pas fait. J'ai appris après parce que j'avais été assez flattée quand même d'avoir été contactée. J'ai appris après qu'ils en avaient contacté deux autres, mais que j'étais la seule à avoir répondu. Et finalement, il faut se préparer aussi. Ils étaient plus réalistes sur ce que peuvent ces instituts culturels, malheureusement. C'est de plus en plus réduit. Le soft power français et vraiment, enfin, ça c'est une question intéressante, mais bon, c'est pas l'endroit de la creuser. N'empêche que ça a débouché sur, de mon côté, un grand intérêt pour la photographie lituanienne, qui a eu 5 autres voyages après, et que là je travaille sur 2 ou 3 projets liés à cette scène.
D'accord.
Heureusement pour ma santé, pas avec le quartier bresson local, mais voilà.
Toi, tu participes beaucoup à des jurys. Je crois que tu sors d'un jury là, qui a duré quelques jours.
Oui, ouais, ouais. On a passé 2 journées pour à faire la présélection du prix Le Bal ADAGP Jeune Création. C'est le nom complet du prix qui récompense tous les 2 ans un artiste qui travaille avec l'image, photographie, vidéo, installation, pour l'aider dans le développement d'un projet.
Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être un peu, nous donner un retour sur comment ça se passe ces jurys-là ?
Ouais.
S'il y a quelque chose peut-être qui peut aider aussi les gens qui seraient perdus et qui nous écouteraient en fait, comment ça se passe et qu'est-ce qui est important à savoir sur ce type de jury ?
Oui, volontiers, parce que je me rends compte qu'en effet, c'est pas toujours facile à comprendre pour les candidats. Alors, la première chose que je dois dire, c'est que les expériences que j'ai eues, cette semaine, au bal, ou il y a 2 ans, avec le prix découverte des Roederer à Arles, on reçoit énormément de projets. C'est vraiment étonnant, étonnant, merveilleux et peut-être un peu inquiétant, je ne sais pas, le nombre d'artistes très très formés, extrêmement cultivés, intelligents, qui présentent des projets. Ça c'est une des tendances, on parlait des tendances, il n'y a pas que les tendances thématiques, écologie, genre, etc. Il y a aussi cette dimension très scientifique de recherche, d'archives. Donc ça, et puis évidemment, il y a très peu de... Généralement, il y a un lauréat à la fin. Et, Là, en l'occurrence, pour ce prix, il y a 5 artistes qui sont présélectionnés et qui passent devant un jury final. Donc, c'est quand même une opportunité pour faire voir son travail à des gens très, des décideurs. Et en fait, la difficulté, je trouve, dans les deux cas, c'est que beaucoup des auteurs, des gens qui sont des institutions qui sont à l'origine de ces prix, veulent se servent évidemment de ce prix pour leur visibilité. Et donc, veulent être, sinon seuls, du moins les principaux soutiens du projet, veulent être les premiers, généralement. On ne peut pas vraiment prétendre être... doter très fortement les prix pour exiger qu'aucun autre partenaire ne vienne s'y associer. Mais voilà, et à la fois, donc, il faut être au début d'un projet. Il faut que le projet, en quelque sorte, ne puisse pas exister. C'est un peu ne puisse pas exister sans ce prix. Hein. C'est un peu l'hubris du mécène. Hein. Et à la fois, on veut pouvoir se faire une idée quand même assez claire de ce que ça va être. D'accord. Et ce paradoxe, il n'est pas intenable, mais il n'est pas facile. Hein. Surtout quand on a affaire à des artistes qui ne brillent pas dans l'art de la communication. Et généralement, c'est cela qu'on préfère quand même. Et voilà, et qui dévoile un peu la fragilité des débuts d'un projet. Il faut savoir passer du temps, regarder ce qu'ils ont fait avant, comment ils ont su mener leur projet avant. Donc ça nécessite en fait de pas juste s'arrêter aux quelques images du dossier. Okay. Donc voilà, c'est un conseil que j'ai à donner. C'est peut-être ça, c'est de montrer ce qu'on a fait auparavant. De montrer ce dont on est capable. Et...
Dans quoi ça s'inscrit de manière plus large dans
le parcours d'artiste. Oui.
Est-ce que j'ai l'impression qu'on arrive un peu vers la fin? Toi, tu voulais.
Ouais, moi j'avais une dernière question. À quel moment tu penses que ton boulot est terminé? Est-ce que c'est au vernissage? Est-ce que c'est à la fin de l'expo? Est-ce qu'il y a une fin?
Souvent, c'est vrai que c'est difficile de lâcher un projet une fois qu'il est sur les cimaises. Et aussi pour des raisons économiques, on essaye de le faire voyager. Ça, c'est une question encore, peut-être, c'est pas le moment d'ouvrir, mais c'est la seule chose qui puisse un petit peu améliorer la condition économique du commissaire, c'est de.
D'arriver à faire voyager.
De trouver d'autres lieux. Ouais. Et généralement, on n'a pas le temps de le faire, parce qu'il faut le faire en amont. Une fois que l'exposition est terminée, que le livre est imprimé, c'est trop tard, parce que donc ça, c'est compliqué. Ça m'est arrivé, mais c'est pas facile. Donc, de ce point de vue-là, quand même, je réfléchis toujours au lieu où pourrait vivre, ou continuer à vivre un projet. Et puis, évidemment, après, il y a toutes les ramifications qui naissent d'un projet. Là, par exemple, sur l'Allemagne de l'Est, il y a certains artistes avec qui j'aimerais beaucoup faire une exposition solo. Donc, c'est une poursuite, en fait, du projet. Par ailleurs, de façon plus concrète, les lieux. Alors, il y a de plus en plus l'accent est mis sur l'événementiel, donc il faut faire des visites, des conférences, tout ça. Donc, en effet, après le vernissage, généralement, on est encore très sollicité pour animer, faire venir le public de façon ponctuelle.
Non, mais
j'aime bien. Je trouve que ça terminait bien cette question-là. Sonia, si on veut te suivre sur les réseaux, est-ce qu'il faut aller te voir sur Instagram?
Je suis très maladroite. C'est vraiment, je m'y suis mise tardivement et je ne sais pas très bien ce que je dois y mettre, si je dois raconter les voyages de recherche que je fais, si je dois. C'est pas un outil du tout que je maîtrise. Je fais ça de façon un peu intuitive et tout à fait inutile certainement, mais je regarde de plus en plus quand même ce qu'ils postent les artistes.
Ouais, ah ouais, ça fait partie de tes endroits de...
J'ai compris ça tardivement. Ouais. J'ai compris que beaucoup d'artistes, comme moi-même d'ailleurs, avaient rarement le temps de mettre à jour leur site internet. Ouais. Du coup, si on voulait se faire une idée un peu plus précise ou un peu plus actuelle de leurs préoccupations, c'était sur Instagram que ça se passait.
D'accord.
Après, rien ne remplace la visite d'atelier.
Hein. Ouais. Ouais, ok. Bah écoute, merci beaucoup Sonia.
Merci beaucoup.
Merci à vous deux.
Donc on peut te suivre sur ton Instagram avec
Sonia.vos
avec deux S.
Vous pouvez suivre le projet Sans Titre sur notre Instagram également, @sanstitre.cast.
S'il vous plaît.
Je suivrai.
Aidez-nous.
Aidez-nous, parce que là, ça devient honteux, si vous voulez.
Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes de Sans Titre sur Spotify. Et voilà, un grand merci au Centre Pompidou de nous avoir accueillis pour cette émission.
Merci à Lola, Cyril et tous les autres. Et puis merci à Olivier Schloberg pour le générique.
À bientôt.
À bientôt.